Salut à tous! Bienvenue sur le podcast des Désorientés, pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode.
Alors, c'est un métier qui procure un peu d'adrénaline et de challenge. Tous les jours, il faut aller chercher son client et sa vente. Donc, c'est très motivant quand on y arrive. Parce que d'abord, on vend des biens qui sont importants, hein. On vend des biens qui touchent au cœur même, du cœur des Français ou des gens en général. Parce que d'ailleurs, l'achat immobilier, c'est une des trois principales sources de stress pour personne. Il y a les déménagements, les décès et un achat immobilier, quoi.
Vous avez entendu ? C'est Isabelle qui vient de parler. Isabelle, c'est une brillante conseillère immobilier dans la vente d'appartements neufs. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'avoir avec elle une discussion de fond, sans tabou et sans langue de bois. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ?
Je vais très bien, bonjour Fati, et j'espère que toi aussi.
Très bien, moi ça va très bien. Je suis ravie de faire cet épisode de podcast sur un métier qui est un peu glamour, hein. On voit les Stéphane Plaza, etc. Ça attire beaucoup de gens, il y a beaucoup de clichés.
C'est vrai.
Donc, je suis très ravie de parler de ce métier. Et je commence toujours en demandant à chaque professionnel d'expliquer en quelques mots, son métier, comme s'il expliquait à un enfant de 8 ans. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais ?
Alors, moi, je suis vendeuse d'immobilier. Tout simplement, je commercialise des appartements et des maisons. J'ai la particularité de les commercialiser dans du neuf exclusivement. Je ne fais pas de l'ancien, mais le métier de l'immobilier, ça peut regrouper aussi bien du neuf que de l'ancien. On pourra en parler tout à l'heure, hein.
Super. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené vers ça ? Comment es-tu en arrivé là ? Si on peut rapidement retracer ton parcours depuis le bac, en général, parce que c'est...
Ouh là là ! Alors, comme tu peux t'en rendre compte, le bac, ça remonte quand même à quelques années. Pour faire simple, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans l'immobilier en ayant fait une petite dégression à un moment donné dans le BTP. On n'était pas très très loin puisque je me suis occupée d'un service achat pendant 5-6 ans dans un grand groupe national, on va dire, qu'on ne citera pas. Mais sinon, j'ai passé effectivement toute ma carrière dans l'immobilier. J'ai fait différents métiers qui m'ont amené aujourd'hui à faire celui de la commercialisation par choix. J'ai été responsable de programme, directeur programme, directrice du développement, tout ça dans la promotion immobilière en fait. Moi, mon cœur de métier, c'est la promotion immobilière, les promoteurs, ceux qui construisent des immeubles, des maisons neuves et qui ensuite les vendent. Donc, c'est plutôt ce cursus où j'ai effectivement fait à peu près tous les métiers qu'on peut exercer en promotion, sauf celui de la vente auquel je suis arrivée il y a un an de cela, par choix. Parce que j'avais envie de faire autre chose. Mais bon, quand on a fait 30 ans de l'immobilier, on reste quand même dans l'immobilier, puis ça me plaît. Et donc, je suis arrivée très, très facilement à la vente, parce que ça faisait quelques années que ça me trottait dans l'esprit, en disant « j'aime bien vendre ». Je viens d'une famille où la vente a toujours été présente. Pas vente d'immobilier, hein, mais bon, la vente reste la vente. Et je ne suis pas déçue, ça me plaît. Et voilà, on aura l'occasion de développer le pourquoi.
Super. Sur ce plan, pour continuer un peu sur le cursus, qu'est-ce que tu dirais en conseil aux jeunes qui voudraient faire ce métier de vente dans l'immobilier neuf ? Qu'est-ce que tu penses brièvement ? Bien sûr, je me doute que tu ne connais pas, je n'ai pas conseillé la dotation par définition, mais ce que tu vois autour de toi, tes collègues et autres, quelle formation ils ont ? Comment on accède à ce métier pour ceux qui seraient intéressés ?
Alors, c'est un métier qui a la particularité d'avoir peu de formation. C'est-à-dire qu'il existe des écoles de vente spécialisées dans l'immobilier depuis peu de temps par rapport aux autres cursus que l'on peut retrouver depuis toujours. C'est-à-dire que c'est un métier où typiquement on avait des gens qui étaient des self-made men ou women, fonction, et on n'avait pas besoin de diplôme. Aujourd'hui, on a un peu rectifié ça parce qu'on s'aperçoit que c'est un métier qui est quand même très technique, qui requiert des connaissances, tant juridiques que commerciales, que des méthodes de vente, etc. Donc, il convient d'avoir quand même une formation...
commerciale.
commercial. Voilà.
D'accord. Donc, c'est un métier qui s'ouvre à beaucoup de gens, et aussi, y compris en reconversion, probablement.
Complètement. Alors, complètement, c'est vraiment le métier où je vois le plus de reconversion. C'est-à-dire que mes collègues ou les gens que je côtoie, ce sont des gens de tous horizons, commerciaux ou pas. Si on a la fibre commerciale, on peut l'exercer. Après, il y a des entreprises qui vous forment, hein, plus ou moins. Mais il y a des entreprises qui vous forment même très bien. Donc, il y a des gens qui sont vraiment en reconversion, des vendeurs de... par exemple des vendeurs de voitures, des vendeurs d'espaces publicitaires, voilà. Mais des gens qui ont ce sens quand même de la relation, parce qu'il faut quand même avoir un certain sens de la relation, hein. Vendre, ça veut dire vendre à quelqu'un. Donc, il faut aimer quand même le relationnel. Et puis, après, bah, on développe ses propres capacités.
Sur ce point de la formation, toujours, tu as dit quand même que c'était technique. J'imagine que c'est très vrai dans le sens où il doit y avoir des lois fiscales qui entourent l'achat immobilier. Donc, du coup, si je me mets à la place d'une personne qui est dans une logique de reconversion, qui écoute ce podcast, qui est intéressée, comment on la rassure sur comment tu vas te former sur la partie technique? Ça va être dans le cadre de l'entreprise qu'elle va rejoindre, si elle se met à son compte, si c'est possible. Comment alors, te former sur ces sujets-là? Sur la partie technique,
c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il y a plusieurs façons d'exercer ce métier. C'est soit on est en entreprise salariée, soit on est à son compte en tant qu'indépendant agent commercial, en fait. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est effectivement, si on est en entreprise, normalement, l'entreprise doit te donner des clés, hein, en ce qui concerne la réglementation, etc. Mais je pense tout de même qu'il est important de se cultiver par soi-même. Si on veut être un bon commercial, il faut avoir aujourd'hui une solide assise juridique. Ça me semble indispensable parce qu'on est dans un monde qui est très juridique. Et qui plus est, si on veut être performant, enfin, les commerciaux, ils sont en concurrence avec d'autres commerciaux. Donc, pour être performant, il faut être meilleur que les autres. Pour être meilleur que les autres, il faut cultiver son savoir et ses connaissances. Aujourd'hui, on a tout à disposition. Internet, on trouve tout ce que l'on veut. Donc, il faut aussi avoir une grande ouverture d'esprit et une curiosité. Et celui qui sera bon commercial, c'est celui qui va aller chercher l'information parce que l'entreprise ne donnera pas tout. Alors, peut-être que la formation de départ donnera beaucoup de clés. C'est en ça où moi, je pousserais plutôt les jeunes aujourd'hui à suivre une formation immobilière. C'est vrai qu'ils ont envie de faire ça pour avoir vraiment ces bases juridiques très importante, fiscale, parce que quand on vend de l'immobilier, on vend parfois des investisseurs donc qui ont besoin, qui ont envie de faire des économies fiscales, donc il faut quand même savoir de quoi on parle. Et il y en a plusieurs, et en France, ça change tout le temps. Donc, il faut être averti.
Tenir à la page.
Ouais. Tenir à la page. Donc, c'est en cela aussi que c'est très intéressant. Hein. Parce que voilà, ça fait appel à des connaissances, à de l'analyse. Et puis donc le jeune, s'il a une formation de départ immobilière, ça sera plus facile. Et après, il faudra qu'il continue à se tenir informé. Si c'est une reconversion, peut-être que Pôle emploi peut proposer des formations spécifiques pour les gens en reconversion.
Et pour finir sur ce chapitre de la formation, de comment on accède à ce métier, est-ce qu'il y a toute une dimension aussi financière? Et donc, parce que calcul des rendements pour les investisseurs en l'occurrence, tout ce qui va être le prêt immobilier, etc. Avoir une petite idée quand même et donc avoir une forme d'aisance avec les chiffres. Est-ce que tu dirais que c'est important ou en fait, bon, pas du tout. Aujourd'hui, on peut déléguer, il y a des calculateurs en ligne, on n'est pas obligé d'avoir ça en soi.
Alors, c'est une bonne question parce que chez certains professionnels de la commercialisation, notamment dans le neuf, on va quand même vous former en interne à ce qu'on appelle l'IOBSP, qui est en fait un diplôme que par les courtiers, pour être prêt, etc., pour savoir quand même vraiment de quoi on parle. Et il y a des heures et des heures de formation pour accéder à ce niveau qui est exigé chez certains commercialisateurs. Parce qu'effectivement, si on ne comprend rien aux chiffres, si on n'a pas un minimum le sens des chiffres, alors attention, hein, on ne nous demande pas d'avoir un bac S avec mention, hein, mais quand même comprendre ce dont on parle. Et ça, c'est important. Si si on est hermétique aux chiffres, à un moment donné, surtout si on vend aux investisseurs, on va quand même se trouver confronté à des difficultés. Même si nous ne sommes pas des gestionnaires de patrimoine, hein, il ne faut pas confondre, parce qu'il y a un autre métier qui est le métier de gestionnaire de patrimoine, qui peut être un peu connexe et qui, lui, va proposer non seulement de l'immobilier à ses clients, mais aussi des placements financiers. Donc là, lui, il devra avoir un niveau de connaissances et de diplômes et de responsabilités bien supérieurs. Peut-être que le jeune qui est intéressé par l'immobilier, il peut aussi glisser sur la gestion de patrimoine. Il est un peu à l'aise avec les chiffres si ça l'intéresse.
Ça m'amène directement à ma deuxième question, à ma deuxième partie de réflexion qui est sur les différentes organisations où ça s'exerce et un peu le panorama des métiers. Dans l'immobilier, où est-ce qu'on se situe là?
Alors, on peut, c'est assez vaste, et c'est tout ce qui présente l'intérêt, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a deux structures principales. L'agence immobilière que tout le monde connaît, le Stéphane Plaza, voilà, en plus il y a des annonces, voilà. Et l'agence immobilière, elle va commercialiser surtout des produits anciens, c'est ce qu'on appelle la transaction de biens. Et puis, il va y avoir les promoteurs immobiliers qui, eux, vont vendre que du neuf. Donc, on peut aller travailler en tant que vendeur chez un promoteur immobilier et vendre les produits du promoteur. Ou alors, toujours dans le neuf, on peut se situer chez un commercialisateur qui, lui, va vendre tous les projets immobiliers des promoteurs. Voilà. Donc, en fait, il y a trois endroits spécifiques pour vendre, sachant que, après, je vais distinguer encore autre chose, c'est au sein de l'agence immobilière, donc dans la transaction de produits plutôt anciens, ils ont rarement du neuf, les agents immobiliers, parce qu'ils ne sont pas très formés pour ça, ils ne sont pas très bons pour faire ce genre de choses, parce que le neuf, c'est de la vente sur plan. On ne fait pas visiter quelque chose qui existe, on vend sur plan. Donc, c'est encore une autre démarche. Et donc, quand on est chez un agent immobilier, on a deux sortes aujourd'hui d'agents immobiliers. Il y a ceux qui ont une agence physique qui a ses propres salariés, on va dire. Donc, on est salarié de l'agent immobilier. Et puis, il y a les réseaux qui se sont développés, que je ne citerai pas, mais il y en a des très grands en France, qui, eux, profitent d'un autre modèle économique, c'est-à-dire qu'ils ils vous embauchent, entre guillemets, en tant qu'agent commercial. Donc, c'est vous qui vous mettez à votre compte, c'est vous qui prenez le risque, c'est vous qui vous assurez, etc. Et ils vous refacturent, disons, un espèce de savoir-faire, un espèce de cadre qu'ils mettent à votre disposition. Donc, en fait, vous payez pour travailler, entre guillemets. Voilà ce qu'est un agent commercial. Et vous bénéficiez de la carte de l'enseigne. Voilà, mais ils vous facturent chaque mois le logiciel, la publicité, un certain nombre de choses. Donc, il y a quand même pas mal de façons d'exercer ce métier.
C'est un peu le modèle franchisé, en fait. Ouais.
C'est un peu le modèle franchisé, absolument, avec le statut de l'agent commercial. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, on peut démarrer comme ça. Donc, c'est un statut plutôt léger, hein, auto-entrepreneur. Et puis, si on dépasse certains de chiffre d'affaires, on passe au statut agent commercial.
Sur ces panoramas qui est très intéressant, où est-ce que tu dirais que c'est le plus avantageux, entre guillemets, même si chaque brique a ses avantages et ses inconvénients, mais j'imagine que, de l'extérieur, être commercial et travailler avec une large panel de promoteurs, c'est ce qui nous donne la plus grande liberté parce qu'on a une énorme quantité de biens à proposer. Alors que quand on est chez un promoteur, on est limité par ce que le promoteur propose. Est-ce que c'est le cas ou pas forcément?
Très bonne analyse, Fatih. Je pense que tu as effectivement compris que personnellement, l'intérêt, je le trouve plus à travailler chez un commercialisateur, ce qui est mon cas, que chez un promoteur. Parce qu'effectivement, tout l'intérêt, ça va être d'accueillir un client, de le découvrir, de voir quels sont ses critères, quel est son souhait, et d'aller chercher, en fait, pour lui, le bien qui va le plus correspondre à ses besoins. Et c'est un peu une démarche de chasseur immobilier, finalement, à l'envers. Donc c'est un peu le Stéphane Plaza, mais avec tous les promoteurs, pas dans l'ancien.
En termes de marché du travail, de fluidité du travail, est-ce qu'il y a beaucoup d'embauches chez les commercialisateurs?
C'est un secteur qui embauche. Après, il y a toutes sortes, comme partout, de commercialisateurs, des plus ou moins gros, des plus ou moins connus, des plus ou moins structurés. Mais c'est un secteur qui embauche très clairement.
Donc ça, c'est bon à savoir pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des garde-fous quand même qui doivent se poser comme question quand ils cherchent sur les sites d'offres d'emploi? Il y a toutes sortes de commercialisateurs qui s'offrent à eux. Est-ce que tu as des petites recommandations, des conseils pour faire un peu le tri ou se poser les bonnes questions pour atterrir au bon endroit?
Effectivement, il va falloir qu'ils jaugent le sérieux du commercialisateur auquel ils s'adressent, c'est-à-dire qu'ils puissent évaluer effectivement quel est l'impact de ce commercialisateur sur le marché sur lequel il va travailler. Est-ce qu'il a beaucoup de mandants, c'est-à-dire de promoteurs qui lui donnent des biens? Comment il est rémunéré aussi? Il va falloir qu'il analyse, qu'il compare un petit peu les rémunérations, c'est un point très important. Est-ce qu'il est salarié ou est-ce qu'il est agent co aussi? Parce que ça doit pouvoir se retrouver côté commercialisateur, j'imagine. Donc, tout ça, ce sont des questions à se poser. Depuis combien de temps il est présent sur le marché? Que disent, puis aujourd'hui, il y a une façon quand même assez simple, hein. On va sur les sites, on regarde les avis clients. Que disent les clients? Le client, finalement, c'est le juge final.
Le juge de paix, très bien. Alors, on va revenir sur ton pourquoi, sur qu'est-ce qui te motive dans ce métier. Ça
te va. Oui, alors c'est un métier qui est... qui procure un peu d'adrénaline et de challenge. C'est-à-dire que tous les jours, il faut aller chercher son client et sa vente. Tous les jours. Donc, c'est très motivant quand on y arrive, parce que d'abord, on vend des biens qui sont importants, hein. On vend des biens qui touchent au cœur même, du cœur des Français ou des gens en général, parce que c'est d'ailleurs l'achat immobilier, c'est une des trois principales sources de stress pour une personne. Il y a les déménagements, les décès et un achat immobilier, quoi. Ils sont des choses très très impactantes sur les clients. Donc on a un rôle important, nous, en tant qu'accompagnants de cette démarche d'achat. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, hein. On rentre dans l'intimité de nos clients, des gens, dans la tanière, hein, de ce qu'elle représente au sens freudien du terme, ou presque. Et du coup, voilà, ça c'est intéressant. Et puis le fait que ben, voilà, tous les jours, il faut se remettre en cause, avoir la pêche, parce qu'en tant que commercial, si on n'a pas la pêche, ça va être compliqué pour convaincre son client qu'il faut aller acheter avec nous. Voilà, donc, il faut en avoir pour deux.
Oui, oui.
Et donc, ça, c'est très intéressant.
Alors, on va aller sur une série de questions pour creuser un peu dans le métier. Déjà, quel type de bien tu vends? Et, parce que j'imagine que de l'extérieur, un truc qui fait rêver, c'est les villas, les maisons de luxe. C'est les biens, voilà.
On se dit, oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est la norme ou en réalité, les programmes immobiliers, là où il y a le dur, c'est plutôt des petites maisons, des appartements, voilà. Juste une idée de ce qu'on vend déjà.
Ouais. Alors, ce qu'on vend très clairement, c'est des petites maisons, des petits appartements pour loger le Français moyen. Les primo-accédants, parce que la clientèle d'acheteurs en France, elle est constituée principalement de primo-accédants. Si on veut faire de la maison de luxe, etc., il faut aller chez des agences qui sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais à ce moment-là, il ne faut pas vraiment travailler chez les commercialisateurs parce que les promoteurs, eux, ne font pas ça. Les promoteurs, ils font des produits en ville, des immeubles, principalement, avant tout, plus que des maisons, pour pouvoir loger le Français moyen. Donc, dans les immeubles, il y a aussi des immeubles dans des beaux quartiers, avec des appartements très grands, avec des belles terrasses. Donc, on a des très belles choses également à vendre, mais ce n'est pas le cœur du métier. Si on, pour donner un chiffre, le panier moyen, entre guillemets, à Lyon d'un achat dans le neuf, il est de 240 000 euros. Et de 240 000 euros à Lyon dans neuf, on n'a pas grand-chose en termes de taille.
C'est quelle superficie, ça? C'est du 40-50 mètres carrés.
Ouais. 40 mètres carrés, oui.
Ah ouais. Ouais. OK. Sur un autre sujet qui est la prospection, où est-ce qu'on trouve les clients? Parce que tu dis qu'il faut aller les chercher tous les jours.
Alors, ça, c'est aussi un point très, très important sur lequel devra réfléchir le jeune ou le moins jeune qui voudra faire ce métier. Oui, j'aurais pu en parler tout à l'heure, effectivement, parce que lorsque l'on est en agence immobilière ou lorsque l'on est à son compte agent commercial, on va chercher le client par son réseau. C'est le premier... la première source. Si on est en agence, on a une vitrine, on poste des annonces sur des sites spécialisés, mais on doit aller chercher soi-même sa clientèle. Si on est chez des promoteurs ou des commercialisateurs, eh bien, les contacts vous sont amenés par votre employeur.
D'accord, ah, donc ça va.
Donc, vous avez des contacts. Après, à vous de les transformer en rendez-vous, de les transformer en vente, et en vente qui aille au bout, qui aille chez le notaire. C'est encore un point difficile de la profession. Et tout à l'heure, peut-être qu'on parlera des aspects difficiles.
Bien sûr. Et en termes de... le client le trouve plus ou moins facilement si on est du côté des...
Voilà. Donc, si on ne se sent pas d'aller vers l'autre pour aller chercher le client... Il ne faut pas être en agence ou agent co, hein, parce que sinon, on va attendre derrière son bureau, il ne va rien se passer.
Ça m'amène à une question sur la pression des chiffres, entre guillemets, c'est-à-dire que, et donc la fluctuation, tu en as brièvement parlé tout à l'heure, des salaires, donc le risque, la prise de risque d'aller faire son chiffre soi-même, quoi. Est-ce que quand on est chez les commercialisateurs, on a des objectifs de vente un peu tendus qui font qu'il y a une pression? Et que derrière, comme tu dis, on a un salaire fixe qui est peut-être limité, tant et si bien que pour vivre décemment, on est vraiment obligé d'aller vers son variable et donc d'atteindre ses objectifs. Et c'est un élément très important à avoir en tête. Ou finalement, on a un salaire convenable et puis les objectifs, c'est plus du bonus, c'est plus de l'extra. Comment tu dirais?
Non, c'est tout à fait la première. Vraiment, c'est le premier postulat. On a un fixe le plus bas possible et le reste, c'est du variable. Donc, il faut être en mesure soi-même de se challenger et d'aller chercher ses objectifs et de les dépasser. Auquel cas, on peut bien gagner sa vie. Mais et puis les commercialisateurs ou les promoteurs ne sont pas là pour ne pas faire de chiffres non plus. Donc, si on le fait pas, on reste pas.
Il y a une pression quand même, il faut avoir ça en tête.
Oui.
Puisqu'on parle des salaires en bref, une énorme fourchette.
Alors, au niveau de la fourchette, elle va être très, très variable. Effectivement, si on a que son fixe, ça va tourner aux alentours de 2000 euros bruts. Et puis, alors après, ça peut doubler, tripler, quadrupler, c'est sans limite.
Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui ont cette âme un peu. C'est un métier où on peut gagner très, très bien sa vie si on a le...
Mais il faut être bon. Mais effectivement, c'est un métier où on peut gagner très bien sa vie.
Alors, donc on continue. On a parlé de où on trouve les clients, comment... la pression des chiffres, etc. Et puis ensuite, l'accompagnement, la partie un peu accompagnement. Donc, tu as beaucoup insisté sur l'aspect social, limite psychologique du métier. Comment on gère ça, effectivement? Parce qu'il y a des gens qui sont hésitants. Donc, du coup, on perd du temps, entre guillemets, avec des clients qui nous font des rendez-vous qui ne servent à rien parce qu'en fait, ils ne savent pas où ils en sont. Et on nous tourne en bourrique. Des clients qui n'arrivent pas à se projeter parce que comme la grande difficulté du neuf, c'est très dur d'expliquer aux gens ce à quoi ça va correspondre. Donc, il y a tout un truc de pédagogie. Enfin, vous nous expliquez un peu comment on gère son client et cet accompagnement.
Alors, en fait, on gère avec une méthode de vente. Il n'y a pas de miracle. Quand on est vendeur, on doit avoir une méthode soit qui vous est apprise par celui qui vous embauche, soit que vous avez vous-même naturellement, mais la vente, c'est un entonnoir. Et on doit amener son client là où on veut. Donc, on va faire une découverte de son client pour bien saisir ce qu'il veut, avec beaucoup d'écoute. Il faut savoir écouter, faire de l'écoute active. Et ensuite, on va pouvoir, lors d'un second rendez-vous, lui présenter en fait ce qui va lui correspondre. Et c'est là qu'effectivement, il faut quand même avoir ce talent de pouvoir expliquer aux gens. Alors, on a des outils qui peuvent nous aider. Parfois, les promoteurs ont des maquettes virtuelles qui permettent de voir des vues en volume. Les maquettes physiques existent de moins en moins, mais les maquettes virtuelles vont pouvoir aider certains clients à se projeter. On a des plans, donc on les emmène sur place aussi, hein, quand même, parce qu'il y a, même si l'appartement, l'immeuble n'est pas construit, on a le site qui existe, l'environnement, les commerces, tout ce qu'il y a autour. Donc, le client peut déjà s'imprégner de cela. Donc, c'est une aide. Mais effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à cerner si son client est prêt. Il y a des gens qui viennent, mais qui ne sont pas prêts encore à passer. Ils ne sont pas acheteurs, comme on dit. Ils ne le savent même pas eux-mêmes, mais ils ne sont pas capables encore de passer à la décision d'achat. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir en tête qu'il s'agit d'un métier d'échec. C'est avant tout un métier d'échec. Moi, je l'ai appris moi-même, à mes dépens, parce que ce n'est pas facile. Effectivement, pour 10 personnes rencontrées, vous allez faire une vente. Donc, ce n'est pas 10 personnes rencontrées, c'est plusieurs rendez-vous. C'est, voilà. Donc, vous avez beaucoup de noms pour avoir un oui.
Effectivement, c'est un point important.
Okay, voilà, il faut être capable de surmonter ça. Et que quand tu as 3 personnes qui te disent non le même jour, il faut garder la pêche pour le 4e qui arrive derrière et être souriant et insuffler une énergie.
Dans la présentation des offres de biens, quels sont les points importants c'est-à-dire, en fait, de l'extérieur, je me dis, est-ce que parfois, je sais pas, le client a demandé, un appartement avec une grande terrasse, il veut lumineux, transverse, telle exposition, et puis, en fait, voilà, traversant, etc. Et en fait, vous n'avez pas du tout ça. Et donc, dans quelle mesure, parfois, on se retrouve peut-être à pousser un peu le client, et donc, l'aspect un peu éthique, si tu veux, de voilà.
Non, il n'y a pas de problème d'éthique parce que, effectivement, si le produit qu'il veut n'existe pas, et parfois ça arrive, c'est à nous de lui expliquer. C'est-à-dire qu'on ne le trompe pas, on lui dit ça n'existe pas pour telle ou telle raison. En revanche, avec votre budget, voilà ce que vous pouvez avoir et à tel endroit, et à lui de nous dire oui ou non. Hein. On ne le force pas à acheter, jamais on force quelqu'un à acheter, on ne peut pas.
Ouais, c'est tellement
va pas pour vous faire plaisir sortir 250 000 euros ou plus. Hein.
Voilà. Non, mais parfois on peut être. Tu sais, moi, j'ai acheté un bien à titre personnel. On peut être dans une forme de lassitude et donc c'est le dernier bien qu'on a et tu vois une forme de. On peut être influencé dans son achat. Voilà. Surtout quand après avoir vu un certain nombre de biens, on ne trouve jamais. On peut se laisser forcer la main un peu, mais bon.
On peut se faire influencer, mais du bon côté parce que. Par exemple, le commercialisateur saura que effectivement la personne, compte tenu de ses critères, ne peut avoir que ça entre guillemets. Donc, on va lui expliquer, on va lui montrer les bons côtés parce qu'il y en aura forcément. Voilà, et il fera son choix en toute connaissance de cause. Mais enfin, il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire que déjà, il y a des sélections qui sont faites. Ce qui est commercialisé par les commercialisateurs, c'est de bonne qualité.
Voilà, ça m'amène à une autre question qui est le portefeuille de promoteurs avec lequel on travaille. Est-ce que c'est aussi important de s'assurer qu'on a des gens de qualité avec un faible niveau de retard de livraison aussi, j'imagine ?
Bien sûr. C'est tout ça qui est très important. Il y a des, ils ont des chartes qualité, hein, les commercialisateurs. Donc voilà, on ne référence pas quelqu'un au hasard. Mmh. Et il y a des gens très clairement avec lesquels ils ne travailleront jamais.
D'accord. Ah. ça rejoint le point de s'assurer qu'on est chez un commercialisateur sérieux qui a lui-même. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des dynamiques, tu peux nous parler un peu de la dynamique totalement différente, j'imagine, entre les investisseurs d'un côté, les clients investisseurs, et les clients particuliers
Oui, alors c'est effectivement une démarche un peu différente parce qu'il y a le côté affectif qui n'est pas là dans l'investisseur, même si certains investisseurs arrivent en disant « alors je voudrais investir, mais je voudrais acheter comme pour moi ». Alors ça, c'est terrible parce que c'est antinomique. Le meilleur investissement, ce sera celui qui sera fait sans le critère affectif. Donc, il faut avoir cette capacité de leur expliquer ça. Et puis, il y a des investisseurs qui sont parfaitement au courant. Donc, si on a un investisseur qui arrive, il va d'abord falloir faire un audit de sa situation pour savoir quelle sorte d'investissement va être le plus intéressant pour lui. Parce qu'on peut partir dans des lois de défiscalisation, appelées les lois Pinel. On peut partir sous des régimes de location nue sans rien ou des locations meublées, gérées ou non gérées. Donc, voilà, on va faire un diagnostic de sa situation personnel et fiscal, et de ce dont il a envie, pour lui proposer un bien avec un régime juridique ou enfin, un régime de défiscalisation ou de montage de location adapté. Mmh. Voilà, donc c'est ça la démarche de l'investisseur. Après, si on a un client qui arrive en résidence principale, ben là c'est complètement différent. On va faire l'audit de sa situation personnelle, de là où il travaille, de ses goûts, de ce dont il a envie, de comment il verrait son appartement, parce qu'il y a des gens qui ont envie de choses et d'autres de choses différentes. Donc, c'est vraiment cette écoute, le recueil de ces éléments pour pouvoir après proposer les secteurs et les biens qui correspondront.
Ok. Voilà. Et puis, un autre aspect aussi du métier, peut-être, ce qui doit être important de l'extérieur, j'imagine, la partie administrative. Toute la contractualisation. Alors, est-ce que ça prend combien de place, voilà, dans une journée type, entre guillemets, on est à la moitié de la journée sur les papiers, les prises de rendez-vous. Il faut avoir conscience de ça aussi.
Alors, ce n'est pas la moitié de la journée, non. Non, non. Très clairement, il faut faire un suivi parce que lorsque l'on réserve un bien avec un client, on va dire une signature, ça prend 2 heures. À peu près. Il faut signer plusieurs exemplaires, voilà, c'est long, c'est des pavés. Même si la signature électronique a été mise en place, la signature électronique aussi, c'est long parce qu'on va expliquer au client ce qu'il va signer, voilà. Bon, donc pour une signature, c'est 2 heures. Enfin, on ne fait pas des signatures tous les jours, malheureusement. En revanche, quand on a des clients, il faut les suivre. Et ça, c'est l'autre aspect qui est peut-être oublié. C'est-à-dire qu'une fois que vous réservez un bien, vous êtes en agence, hein, vous signez un compromis, le client derrière, il va falloir qu'il obtienne son prêt. Soit il y a un prêt. Donc, on s'en occupe également de ça. Soit le client a sa propre banque, soit on lui propose des services d'un courtier aussi. Et donc, on va devoir suivre le client jusqu'à ce qu'il obtienne son offre de prêt. Puis après, il pourra aller signer chez le notaire. Et ça, c'est une partie très importante qu'il ne faut pas négliger parce qu'on a des délais pour se faire vis-à-vis des promoteurs. On nous demande de respecter des délais. C'est-à-dire, typiquement, entre une réservation et un acte chez le notaire, il doit y avoir 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, on va devoir déposer une demande de prêt, l'obtenir sur le principe, obtenir des offres de prêt, prendre le rendez-vous chez le notaire. Enfin, voilà, c'est tout très bien balisé et ça requiert un suivi hebdomadaire. Ah, donc, si on a beaucoup de clients, ça représente plus ou moins de temps. Donc, oui, on va dire qu'on a, par exemple, une heure et demie par jour de suivi administratif, mais qu'il faut faire impérativement. Le risque étant, si le client est mal suivi, qu'il se désiste, change d'avis et qu'il revienne en arrière et qu'il annule son achat.
Oui, d'où l'importance de aussi être transparent aussi, j'imagine, avec les clients sur toutes les conditions qui vont entourer cet achat, c'est-à-dire où est-ce qu'il est situé. Comme, bon, ça, c'est évident, mais je veux dire, par exemple, s'il est près d'un fleuve et qu'il peut y avoir des risques d'inondation, l'alerter un peu sur tous ces risques pour qu'il ne les découvre pas à la dernière minute et qu'il se désiste. Ouais.
C'est fondamental. La transparence est fondamentale et ça rejoint peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure en matière d'éthique, c'est absolument indispensable parce qu'un jour ou l'autre, il va s'en rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, de toute façon, ça n'ira pas au bout et vous serez passé pour un menteur, voire un arnaqueur. Donc, c'est absolument indispensable d'être transparent, d'aller sur place, de lui dire tout ce qu'il y a à dire, S'il y a le train qui passe à côté, il faut qu'ils le sachent.
La satisfaction des clients à long terme, elle est... Donc, tu disais tout à l'heure qu'on peut voir ça, les avis des clients. Comment ça se passe? Il y a des sites où les gens mettent...
Ah oui, tout à fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que généralement, on peut travailler avec avis vérifié ou avis Google, tout simplement, et aller mettre des avis sur le commercialisateur, l'agent immobilier, etc. Et c'est une source importante d'information.
Ouais. Ok, super. Bon, ben, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens méconnaissent dont on n'a pas parlé?
J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la notion d'échec. Cette capacité à gérer l'échec, qui, quand on le dit, ça semble évident, mais quand on le vit, ça l'est beaucoup moins. Et une autre dimension aussi, c'est la capacité à gérer financièrement, pour en avoir conscience, un salaire qui n'est pas régulier, qui n'est pas fixe, qui est constitué d'une grande partie de variables. Et ça, il faut avoir cette capacité et à gérer cette incertitude, finalement.
Est-ce qu'il y a des... C'est un peu cyclique, tous les mois de l'année sont propices à...
Non, c'est un peu cyclique. On va avoir des très bonnes périodes, typiquement, qui vont être les périodes octobre-novembre. Mmh. On a beaucoup d'investisseurs, ils ont eu leurs avis d'apposition, c'est avant la fin de l'année, ils veulent placer leur argent, voilà. Donc ça, c'est très, très porté sur l'investissement. Et puis, traditionnellement, le mois de juin est aussi un mois très, 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 très bon. Voilà. Donc, sachant que, bon, on fait des ventes toute l'année, mais ces deux périodes sont quand même beaucoup plus marquées. Dans le neuf, en tout cas. En transaction, dans l'ancien, je ne sais pas.
Et un des points qui me vient, c'est aussi dans une des difficultés, peut-être, que les gens méconnaissent ou sous-estiment, peut-être, comme tu disais, le changement des réglementations.
Ah oui. Oui. Oui, ça. Alors. En fonction de la structure dans laquelle vous êtes embauché, vous allez avoir des structures qui vont quand même vous tenir au courant des différentes lois. Mais par exemple, chaque année, la loi de finances va modifier certains points par rapport principalement aux lois fiscales. Actuellement, c'est la loi Pinel qui est en place depuis quelques années, mais ça change tous les 3-4 ans. On a un nouveau dispositif, donc il faut se l'approprier. Il faut regarder ses avantages, ses défauts, voilà, donc, maintenir au courant. Sur les prêts, par exemple, le prêt à taux zéro, qui est une aide qui est mise en place par l'État aussi pour aider les primo-accédants, chaque année, les enveloppes du prêt à taux zéro varient. Donc, il faut se tenir informé. Les plafonds de ressources auxquels ils sont soumis varient aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'il faut quand même connaître. Et puis après, vous allez avoir des clients un peu plus qui vont vous parler peut-être d'audation. Voilà, il ne faut être pas complètement ne pas savoir ce que c'est. Quoi.
Mais bon, on est aussi soumis aux fluctuations du marché immobilier en général, qui est un peu cyclique aussi. Ouais.
Oui, aussi.
Il y a des années plus propices que d'autres, etc., j'imagine.
Oui, même si depuis plusieurs années, quand même, on est sur un marché excessivement dynamique. Alors, en ce qui concerne le neuf, on ne produit pas suffisamment de logements en France. Donc on a besoin sans arrêt de construire davantage et on est sur un marché tendu, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, le stock est bas. Donc ça, c'est propice à la vente.
Super. Bon, je pense qu'on a fait le tour là des questions qui étaient très spécifiques au métier. On va passer à des questions plus générales, notamment la première qui est sur les qualités requises. On en a brièvement évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités requises dont on n'a pas parlé, qui sont importantes pour toi?
Oui, on a parlé quand même de pas mal de choses, mais l'enthousiasme, c'est un point très important parce qu'un vendeur qui n'aura pas envie de lui acheter. Donc l'enthousiasme, tous les matins, arriver avec le sourire au bureau. La persévérance, parce que comme on a beaucoup d'échecs, il faut toujours aller au bout, toujours tirer le fil, s'accrocher, voilà, ça c'est très important. L'empathie aussi, savoir se rendre à l'écoute, enfin plutôt savoir écouter, très très, très important, parce que le client vous plein de choses qui vont vous être utiles pour pouvoir lui trouver ce qui va le mieux correspondre, en fait. Hein. Voilà. Donc ça me semble être...
Le principal.
Oui.
En termes de conditions de travail, et notamment sur tout ce qui va être qualité vie privée, vie pro, c'est-à-dire c'est les horaires. On est totalement autonome de ce que j'imagine, mais il y a une liberté, peut-être qu'il y a un autre argument supplémentaire entre guillemets en faveur du métier.
Tout à fait. C'est-à-dire que généralement, on n'a pas beaucoup d'horaires, mais en revanche, on a une amplitude horaire qui est très, très large. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit disponible quand nos clients sont disponibles. Donc, nos clients qui travaillent, on va dire, de 8-9 heures le matin à 17h, 18h le soir, ben nous, on va faire les rendez-vous après. Donc, et parfois le samedi aussi. Donc, il faut quand même ne pas avoir trop de contraintes à la maison. Si on veut être chez soi à 17h, ce n'est pas possible. Même à 19h, 19h, ça peut être possible, mais parfois, il va falloir quand même rentrer plus tard quand vous avez des rendez-vous importants. Voilà. Après, il y a des jours où ben, il n'y aura rien, donc vous allez être très, très light, un peu plus light. Donc, c'est plutôt cette variation d'amplitude horaire qui est importante.
Mm-hmm. En termes de source de satisfaction, moi, j'aime toujours demander comment on juge son succès. Bon, évidemment, là, c'est assez. Il y a, comme on a dit, il y a juge de paix, c'est l'achat. Mais est-ce qu'il y a d'autres satisfactions pour toi depuis que tu exerces le métier, d'anecdotes que tu peux nous partager, auxquelles on peut s'attendre, peut-être?
Ben, les satisfactions, ce sont aussi les recommandations des clients. C'est-à-dire que quand vos propres clients, ou même ceux auxquels vous n'avez pas vendu, pour une raison ou pour une autre, vous envoient des amis, des connaissances, ça, c'est une vraie source de satisfaction. Ça montre, aussi qu'on a été bon. Hein. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Après, il y a d'autres satisfactions quand on a des clients qui sont tellement... Enfin, moi, j'ai eu le cas une fois où on s'est retrouvés en pleurs avec la cliente tellement elle était heureuse de trouver enfin... Elle pensait qu'elle ne pourrait jamais trouver un appartement dans son budget. Elle l'a enfin trouvé. Il y avait une histoire de vie derrière et c'est très, très, très émouvant. Hein. Dans ces cas-là, quand vous trouvez vraiment à des clients quelque chose qu'ils pensaient ne jamais pouvoir avoir, voilà. Donc, ça aussi, c'est une grande source de satisfaction.
Ensuite, sur l'évolution, comment on évolue dans ce métier? Donc, on démarre chez un commercialisateur, on va être commercial junior, je ne sais pas, et puis après, quels sont les...
Il n'y a pas vraiment de gradation hein, sur les commerciaux, on est commercial, voilà. Et puis ensuite, on peut évoluer comme manager, manager d'une équipe. Voilà. Donc là, on va... faire ses ventes, mais on va aussi encadrer l'équipe plus ou moins importante en fonction des structures. Après, on peut évoluer directeur commercial aussi. Voilà, c'est plutôt ça l'évolution.
Après, tu disais tout à l'heure qu'on peut aussi évoluer dans d'autres métiers qui sont connexes, donc la gestion du patrimoine. Il y en a d'autres?
Oui, on peut évoluer après en tant que peut-être, alors si on est commercialisateur ou côté agence, on peut passer chez les promoteurs en tant que directeur commercial ou en tant que vendeur évidemment, mais si on parle d'ascension ou responsable prescripteur, c'est-à-dire que à l'inverse, chez le promoteur, le responsable prescripteur, c'est celui qui va travailler avec les commercialisateurs.
Ah oui, d'accord.
Qui est notre interlocuteur. Okay. Voilà, c'est un peu les passerelles classiques.
Et puis, dernière question sur l'avenir de ce métier. Comment est-ce que tu penses que la pratique de ce métier peut évoluer dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu dirais que le digital a un impact, probablement peut-être sur les maquettes ou quoi, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a des changements à l'œuvre auxquels les jeunes qui vont se lancer dans ce métier doivent s'attendre?
Alors, on évolue, on a pas mal évolué avec le confinement. En fait, on dit toujours que les crises sont source d'évolution, ce qui est vrai. Par exemple, on s'est mis à travailler en visio, ce que l'on ne faisait pas du tout avant. Du coup, on s'est aperçu que c'est une façon de vendre. Avec un peu spécifique, mais à laquelle il faut s'adapter et qui est possible. Donc ça a été une grosse évolution, la visio, dans notre métier. Alors, on n'en est pas encore à la visite virtuelle avec une caméra. Je pense que là, on n'y est pas encore et je ne pense pas que ça puisse bien, bien fonctionner. Parce qu'en transaction, notamment, bah, quand il y a un bien, on va vouloir le visiter en vrai.
La visite ne pourra jamais être, ça c'est clair.
Là je pense qu'elle ne pourra pas être remplacée. Donc, bon, on a déjà évolué vers ça, on s'est adapté, on a aussi fait du rendez-vous à domicile, puisque là, dernièrement, on y était autorisé. Mmh. On n'avait plus le droit de recevoir du public, mais on était autorisé à un rendez-vous domicile. Donc, c'est des choses auxquelles il ne faut pas craindre non plus. Et c'est des choses qui vont forcément se développer un peu plus. Voilà, après... l'utilisation du digital, on le fait déjà pour montrer les maquettes virtuelles, ça c'est déjà très en place. Alors oui, ce qui a beaucoup changé et qui s'est accéléré, c'est la réservation électronique. Ce qui n'était pas du tout développé jusqu'à présent, on signait 4 exemplaires de 100 pages, on passait 2 heures à signer, aujourd'hui on clique. Voilà. C'est une évolution. Mais bon, ce n'est pas majeur, ça ne change pas l'essence du métier.
Il n'y a pas de menace particulière auxquelles tu penses puisse faire qu'il y ait moins de commerciaux. C'est-à-dire que, par exemple, les promoteurs décident de ne plus travailler avec les commercialisateurs et in-house, quoi. Avec beaucoup plus.
Il n'y a pas de menace. Au contraire, qui est en développement. C'est un métier qui est en développement, bien au contraire. Et les promoteurs ont besoin de gens comme nous parce qu'on a un impact très fort au niveau référencement. Il y a une chose qui change, je pense qu'on a vu éclore, là c'est sur un métier connexe, qui est celui des agents immobiliers, mais on a vu éclore ces dernières années de nombreuses structures tous les jours d'agents commerciaux indépendants. Et là, je pense qu'avec la crise qu'on vient de passer, il va y avoir un écrémage sévère. On restera que les plus grands réseaux, les autres, en étant seuls, enfin, en étant agent commercial à son compte, n'auront pas malheureusement les reins assez solides pour tenir.
C'est un point important, effectivement. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux faire passer aux jeunes, aux personnes en reconversion? Foncer peut-être, je ne sais pas.
Non, mais c'est un métier qui est passionnant parce qu'il est varié, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas une journée qui est identique. Donc ça, c'est un point aussi très, très, très important. Donc si on aime le monde, si on est intéressé par le produit immobilier, il faut y aller parce que c'est un métier d'avenir.
Merci beaucoup, un très grand merci.
Merci à toi.
Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site, desorienté.fr, ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom Desorienté. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et surtout faire tourner l'info. Vous l'aurez compris, notre but est d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. À très vite.